VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bienvenue à l'édition du mardi 24 février 2015. À la une ce soir.
Journée particulièrement sanglante au Nigeria. Une explosion dans un bus a fait au moins 17 morts près de Potiskum dans le nord-est. Quelques heures plus tard, un double attentat suicide s'est produit à Kano faisant au moins 10 morts.
Deux soldats nigériens sont morts dans le sud-est du pays, près de la frontière avec le Nigeria.
Le groupe État islamique enlève au moins 90 chrétiens dans le nord de la Syrie.
Ukraine, les signataires des accords de Minsk augmentent la pression pour le respect total du cessez-le-feu.
On aura nos segments sur l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Deux soldats nigériens sont morts dans le sud-est du Niger, près de la frontière avec le Nigeria. D'après l'AFP, leur véhicule a sauté sur une mine à Bosso. On compte également 4 blessés graves. Une source sécuritaire pointe du doigt les islamistes nigérians de Boko Haram, actifs dans la région.
Au Nigeria, une explosion dans un bus a fait au moins 17 morts près de Potiskum, dans le nord-est du pays. Claire Morin-Gébourg.
Selon des témoins, la déflagration s'est produite à l'intérieur d'un bus bondé à la gare de Tachar Danborno, dans la banlieue de Potiskum, la capitale économique de l'état de Yobe. Un responsable du syndicat des chauffeurs présent sur les lieux avait fait état à l'AFP de 13 tués par l'explosion, un bilan qui s'est alourdi à 17 morts, avec le décès de 4 des blessés évacués à l'hôpital de la ville. Potiskum a été le théâtre de plusieurs attentats à la bombe, dont certains commis par des kamikazes sur des sites bondés et qui ont été attribués au groupe islamiste armé Boko Haram. La dernière tuerie en date remonte à dimanche dernier. Une fillette d'environ 7 ans portant une bombe s'est fait exploser à Kazuar Jagwal, un marché de vente et de réparation de téléphones mobiles à une heure d'affluence. 7 personnes avaient péri lors de cette attaque.
Quelques heures après cette explosion près de Potiskum, un double attentat suicide s'est produit à Kano. L'attaque a eu lieu dans une gare routière bondée de cette grande ville du nord du Nigeria. La police, citée par l'AFP, compte au moins 10 morts. Les assaillants seraient 2 hommes qui venaient de descendre d'un bus.
Et au Nigeria, toujours, des hommes armés ont enlevé hier une missionnaire américaine, Sola Collins Adebayo. Selon la police de l'état de Kogi, dans le centre du pays, le rapt s'est produit dans l'école où elle travaillait. La police craint une demande de rançon.
L'armée congolaise lance l'offensive contre l'FDLR. Un mois après avoir annoncé l'opération, les FARDC ont débuté ce mardi la campagne de désarmement forcé contre les combattants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Nicolas Pinault.
Oui, l'opération a débuté dans le sud Kivu. Le but est de nettoyer le secteur de Mulenge, près d'Uvira, cette ville près de la frontière burundaise sur les rives du lac Tanganyika. Comme le confirme à VOA Afrique, le général Léon-Richard Kasonga, porte-parole de l'état-major des FARDC, sont notamment visés les collines autour de Rouvouyé et Mulindi. A noter que la MONUSCO ne participe pas à ces combats contre les FDLR. La mission onusienne a décliné tout soutien en raison du commandement de l'opération confié à 2 généraux congolais accusés de violation des droits de l'homme, accusation rejetée par Kinshasa. Plus de 20 ans après le génocide rwandais, la traque de ce groupe d'extrémistes Hutus reste l'un des grands défis du pouvoir central de Kinshasa pour asseoir son autorité dans l'est du pays. Après la déroute militaire du M23, un autre groupe armé menace toujours la stabilité dans le nord Kivu, les ADF. Ces rebelles ougandais terrorisent les habitants de Beni et sa région.
Au Burundi, le Sénat a approuvé la nomination du nouveau chef des services de renseignement. Il s'agit du général de brigade Étienne Takarutimana, un fidèle du chef de l'État Pierre Nkurunziza. Cette nomination intervient à l'approche d'élections clés, constate l'AFP.
En Libye, une militante de la société civile Intisar al-Asariri a été tuée par balle. D'après l'AFP, son corps a été retrouvé à Tripoli, ainsi que celui de sa tante dans le coffre de sa voiture. Fondatrice d'une association, elle avait participé à plusieurs manifestations contre les milices.
Législative comorienne, le parti de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi disposerait d'un léger avantage face au parti présidentiel. C'est ce qu'indique un décompte compte de l'AFP établi à partir des résultats du dépouillement.
Et l'Égypte a adopté une nouvelle loi antiterroriste. Les autorités ont désormais plus de moyens pour agir contre toute organisation ou individu soupçonné de représenter une menace pour la sécurité nationale. Mesure qui intervient alors que les Frères musulmans, organisation de l'ancien chef d'État Mohamed Morsi, font l'objet d'une vague de répression.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les militants du groupe État islamique ont enlevé aujourd'hui au moins 90 chrétiens dans des raids sur des villages assyriens du nord de la Syrie. Lionel Gaïma.
Selon l'Observatoire syrien de droits de l'homme, ces kidnappings ont eu lieu après que les militants islamistes eurent pris Tal Shamiram et d'autres villages assyriens, dont la province de Hasakeh. Il y a eu hier, lundi, des accrochages dans la région entre les combattants kurdes et ceux du groupe État islamique. Dimanche, les Kurdes avaient lancé dans ce secteur, près de la frontière irakienne, une offensive appuyée par l'aviation de la coalition conduite par les États-Unis. Ces frappes aériennes ont, selon l'armée américaine, atteint des unités tactiques, des véhicules et un bunker de djihadistes. Ce n'est pas la première fois que le groupe État islamique a recours aux enlèvements et, dans certains cas, aux décapitations comme moyen de lutte.
Un double attentat à la bombe a fait au moins 22 morts et 43 blessés ce mardi dans la principale rue d'une banlieue de Bagdad. Au moins l'une des deux explosions a été provoquée par une voiture piégée, selon des sources sécuritaires citées par l'AFP.
En Ukraine, les rebelles séparatistes ont commencé le retrait des armes lourdes de la ligne de front telle que requise dans l'accord de cessez-le-feu. Cependant, aucune source indépendante n'était en mesure de confirmer la déclaration faite par le chef rebelle Edouard Bassourine, qui affirme que le retrait a débuté à 9h heure locale ce mardi. L'armée ukrainienne avait dit hier ne pas pouvoir commencer son retrait à cause des combats. Après une réunion à Paris, les quatre signataires des accords de Minsk, la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine ont conjointement demandé la mise en œuvre stricte de toutes les dispositions de ces accords. Rappelons que le conflit ukrainien a fait près de 6 000 morts en 10 mois.
Conséquence de la crise en Ukraine et des actes posés par la Russie dans la région, un des pays baltes annonce le rétablissement du service militaire obligatoire. La Lituanie compte enrôler environ 3 000 hommes de 19 à 27 ans pour une période de 9 mois. Cette circonscription limitée, renouvelable pour 5 ans, doit d'abord recevoir l'aval du Parlement.
Bonne nouvelle pour la Grèce. Les ministres des Finances de la zone euro ont approuvé le prolongement de 4 mois du plan de sauvetage de 270 milliards de dollars. Cela après qu'Athènes a promis des réformes financières additionnelles. L'aval des ministres requiert un vote parlementaire dans les 19 pays membres de la zone euro. La crise immédiate est donc résolue, mais le problème de la dette grecque est loin de l'être.
Ici aux États-Unis, une collision entre un train et un camion a fait au moins 30 blessés en Californie. Selon les médias américains, l'accident s'est produit tôt, mardi matin, à un passage à niveau à environ 100 km au nord-ouest de Los Angeles. Le conducteur du camion, qui apparemment avait quitté son véhicule au moment de l'impact, a été arrêté, indique la chaîne de télévision CNN.
À Washington, le Sénat examine une voie de sortie possible à l'impasse actuelle entre le président Barack Obama et le Congrès, dont les deux chambres sont contrôlées par les Républicains. Ce différend risque de mener à la fermeture partielle du super ministère de la Sécurité intérieure. Nathalie Barge.
Les Républicains lient le financement de ce département à l'abrogation du décret de M. Obama sur l'immigration. Suite à plusieurs vaines tentatives d'entériner une proposition de la Chambre basse, les leaders du Sénat ont adopté une nouvelle stratégie qui ne lierait pas directement les décrets au budget du ministère de la Sécurité intérieure, qui risque de manquer de fonds vendredi à minuit. Les sénateurs républicains avaient soumis une mesure de 40 milliards de dollars adoptée par les députés républicains qui financerait ce ministère jusqu'à la fin de l'exercice fiscal, tout en abrogeant les décrets de M. Obama. Mais les sénateurs démocrates qui appuient le président ont de nouveau empêché un vote final sur cette mesure, pour la quatrième fois consécutive. Le leader de la majorité républicaine, le sénateur Mitch McConnell, a alors proposé une mesure séparée qui annulerait la décision du président, sans pour autant l'allier à la loi de financement. Plusieurs sénateurs républicains demandent aussi un vote pour financer pendant 2 ou 3 mois le ministère de la Sécurité intérieure.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré ce mardi qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la conclusion d'un accord sur le nucléaire iranien, le Congrès américain étant, selon lui, le dernier rempart possible à un tel accord. M. Netanyahou a été invité par les élus du Parti républicain qui contrôle le Congrès américain et partisan comme lui d'une ligne dure contre l'Iran, a prononcé un discours le 3 mars sur le sujet, une intervention qui fait des vagues tant aux États-Unis qu'en Israël, souligne l'agence France Presse.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco avec Bagassi Koura.
La Côte d'Ivoire va mobiliser 1046 milliards de francs CFA sur les marchés financiers en 2015. C'est ce qu'a annoncé le directeur général adjoint du Trésor public et de la comptabilité de Côte d'Ivoire, Jacques Conan Assaoré, cité par l'agence APA. Selon lui, cette somme servira à financer le dernier virage du pays vers l'émergence à l'horizon 2020. Le gouvernement ivoirien a décidé de consacrer cette année 1534 milliards de francs CFA, soit 31% du budget de l'État, à la réalisation d'importants projets d'investissement, a déclaré Assaoré. Une grève se poursuit depuis plus de 3 semaines dans la principale mine de fer de la Mauritanie, à Zouérat, dans le nord, où se concentre l'essentiel de la production de fer du pays. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des sources concordantes. Le mouvement est suivi à près de 91%, explique le secrétaire général du syndicat, Mohamed Abdallahi. Ce dernier explique qu'il réclame des augmentations de salaire. Le fer constitue l'essentiel des exportations de la Mauritanie, qui en produit environ 12 millions de tonnes par an, dont 80% sont vendus à la Chine et le reste à des pays européens. En Algérie, selon l'AFP, plusieurs dizaines de policiers sont intervenus en force ce mardi contre des dirigeants de l'opposition qui voulaient manifester à Alger contre l'exploitation du gaz de schiste. Et puis enfin, affecté par des grèves puis par des coupures d'électricité, l'économie sud-africaine a une fois de plus dessus en 2014 avec un taux de croissance de 1,5%.
Merci Bagassi Koura pour la Minute Éco.
Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
En Europe, suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Coup d'envoi à 19h45, temps universel. Le Borussia Dortmund reste sur 3 victoires et se présente dans les meilleures conditions possibles contre la Juventus de Turin. Ce sera tout à l'heure en Ligue des Champions. C'est ce qu'a expliqué son entraîneur Jürgen Klopp en conférence de presse. On suivra avec attention Pierre-Emerick Aubameyang. À la pointe de l'attaque de Dortmund, le Gabonais a déjà marqué 9 buts cette saison. Autre rencontre tout à l'heure, Manchester City contre le FC Barcelone.
Une mauvaise nouvelle pour Lassina Traoré.
L'attaquant ivoirien de Monaco, récent champion d'Afrique des Nations, doit être opéré cette semaine d'une fracture de fatigue du tibia droit et sera absent entre 6 et 8 semaines, c'est ce qu'a annoncé son club. Lassina Traoré, qui n'avait joué que quelques minutes en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection ivoirienne, est rentré blessé en principauté.
Cannes des moins de 17 ans au Niger.
Aucun match aujourd'hui, la demi-finale, la première, ce sera demain entre l'Afrique du Sud et le Nigeria.
Premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique de beach soccer.
Oui, les matchs se sont joués à Djibouti et en Ouganda. Pour le deuxième et dernier tour, la Tanzanie et l'île Maurice se sont qualifiées sur le sable. Déjà victorieuse à l'aller, la Tanzanie a récidivé chez elle en s'imposant devant le Kenya par 7 buts à 6. L'autre rencontre a vu le succès en déplacement de Maurice, 5 buts à 2. À l'aller, ce fut l'inverse. Les Mozambicains l'ayant emporté, un but a fait la différence et le bonheur des Mauriciens. 6 matchs et non 7 sont programmés au second tour. Le Nigeria étant qualifié à la suite du retrait de la Libye. Et je vous rappelle, Morgane, que le championnat d'Afrique de beach soccer se déroulera du 14 au 19 avril. Ce sera aux Seychelles.
La Coupe du Monde 2022 au Qatar se jouera vraisemblablement au mois de novembre-décembre.
Le patron de la Ligue allemande de football, Andreas Rettig, a exprimé ses inquiétudes quant à l'impact sur les championnats et sur les joueurs européens. Présent à Doha en qualité de président de l'Association européenne des clubs, Karl-Heinz Rummenigge n'a pas été surpris par cette annonce de la FIFA. C'était même plutôt attendu, mais il a insisté sur les conséquences financières d'une telle reprogrammation.
L'NBA, championnat de basket nord-américain.
Houston victorieux contre Minnesota 113 à 102. Memphis bat les Clippers de Los Angeles 90-87. San Antonio, le champion en titre, s'enfonce un peu plus après sa défaite à Utah 81-90. Dans la conférence Est, Toronto, deuxième, a chuté à la Nouvelle-Orléans 100-97. Dans la course aux playoffs, Miami a croqué Philadelphie 119-108. Enfin, Brooklyn n'a fait qu'une bouchée des Nuggets à Denver 110-82.
Les sports avec Nicolas Pineau. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Romain Dorsil et Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Côte d'Ivoire, la cour d'assises d'Abidjan a enregistré le passage de l'ex-première dame, Simone Gbagbo, qui a rejeté toutes les accusations portées contre elle et soutenu que son mari, Laurent Gbagbo, est le vainqueur des élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire. Voici le reportage de notre correspondant à Abidjan, Germain Dry.
Le passage à la barre de Mme Simone Eve Gbagbo, l'épouse de l'ancien président ivoirien, a connu deux blocages. Il s'agit d'abord de l'immunité parlementaire de l'accusé soulevée par la défense qui n'a pas été prise en compte par la Cour, indiquant que cette protection a pris fin en 2005. Un rejet que le collectif des avocats de la défense trouve injuste. Maître Dagué Rodrigue.
Nous avons démontré par A plus B à la Cour, ici présente, que le mandat de Mme Gbagbo n'était pas fini en 2005. Pour preuve, il y a des lois qui ont été votées jusqu'à 2010. Le nouveau gouvernement de M. Ouattara s'est adossé sur une loi votée en 2007 pour prendre le décret d'application du nouveau statut des diplomates. La Cour, pour ne pas répondre à la question, a prétendu qu'elle était incompétente. Je ne partage pas ce point de vue, mais je respecte la décision de la Cour. Le procès n'est pas encore fini, mais c'est une bonne appréciation.
Le deuxième blocage concerne la diffusion de cassettes vidéo d'un meeting organisé par l'ex-première dame à l'époque à l'audience. Pour ce dernier cas, la projection a été faite permettant à tous d'en avoir une idée du contenu. Durant cette comparution qui a duré plus de 8 heures d'horloge, l'accusée a rejeté en bloc les chefs d'accusation portés contre elle. Puis, elle persiste et signe que le président Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections de 2010. Au même moment, Issiaka Diaby, président des victimes de Côte d'Ivoire, qui a suivi ce procès avec plusieurs membres de son association, a affirmé que les victimes ont suffisamment de preuves contre Mme Simone Gbagbo.
Certains de nos membres reconnus viendront témoigner pour démontrer que Simone Gbagbo a bel et bien armé des jeunes dans des quartiers qui ont commis des crimes. Simone Gbagbo est à l'origine de certaines violences. Elle ne peut pas s'en sortir et elle doit répondre à ses actes.
L'audition des témoins a démarré cette nuit et se poursuivra des jours durant. Germain Dry, Abidjan, VOA Afrique.
Cap maintenant sur le Burkina Faso, une quarantaine d'organisations de la société civile appellent à démilitariser le pouvoir d'État. Elles s'en prennent surtout au RSP, le régiment de sécurité présidentielle, dont elles veulent la dissolution. Pour une analyse, écoutez le journaliste Ladji Yacouba Bama, rédacteur en chef du journal Le Reporter.
Dans cette déclaration, ces organisations demandent notamment la démilitarisation du pouvoir et la transition. Et parce qu'ils partent du principe qu'avec tout ce qui s'est passé récemment avec le RSP, il y a lieu de se départir définitivement des militaires.
Est-ce que la société civile là, demande aussi le départ d'Isaac Zida, qui est le Premier ministre?
Non, pas du tout. C'est ce que je disais tantôt. Il ne dit absolument rien sur tout ce cas. Il ne dit rien sur le départ des militaires qui sont dans le gouvernement et dans le Conseil national de transition. Il ne dit absolument rien. Il se contente juste de dire qu'il faut, en tout cas, dissoudre le RSP, par les autorités de la transition, de prendre toutes les mesures idoines pour que la sécurité des jeunes des autres soit assurée. Mais en même temps, on sait que démanteler le RSP ne suffit pas pour dire que la transition est démilitarisée. Quand il y aura un peu de militaire, puisque là, les gens pensent que c'est lui qui a quitté la présidence et puis mettre le président à Kassambo, mais en réalité, c'est lui qui détient les vrais pouvoirs dans ce pays. Donc, ça, c'est que tous ces gens sont dans les attentes de la transition de faire la militarisation.
On se rappelle que la première fois que Zida est arrivé à la présidence, il avait été accompagné par certaines de ces organisations de la société civile.
Il y a certainement des organisations de la société civile, effectivement, qui, au début du pouvoir des Zida, ont été, en tout cas, derrière lui, qui ont pratiquement porté à bout de bras pour aller le mettre sur le côté présidentiel. Et aujourd'hui, ces images-là restent, en tout cas, très vivantes dans l'esprit de beaucoup de Burkinabés. On voit que les responsables de l'OSC qui ont accompagné Zida jusqu'aux fêtes présidentielles ont du mal à se séparer de cette image-là. Ils continuent de l'entretenir à travers, en tout cas, leur sortie depuis un certain temps, où on les soupçonne, en tout cas, de ménager trop le Premier ministre au détriment des autres ministères, notamment ceux du RFC. Je ne sais pas qu'en tant qu'aujourd'hui, on veut en tout cas ménager cet élément-là au détriment des autres membres du RFC, comme s'ils n'en faisaient pas partie. Voilà un peu la situation que beaucoup de Burkinabés ont du mal à comprendre, si bien que certains pensent que ces OSP-là, ils sont pratiquement à la solde du Premier ministre, en quelque sorte.
C'était le journaliste Ladji Yacouba Bama, rédacteur en chef du journal Le Reporter. Il était joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
L'Afrique connectée, c'est le thème de Washington Forum. En quoi l'explosion des téléphones connectés à Internet a changé la vie des Africains? Les smartphones sont partout sur le continent, parlons-en. Laissez vos questions et commentaires sur notre page Facebook. Washington Forum, ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Nouveau coup de projecteur ce soir sur Boko Haram, à l'heure où il est question de la mise en place d'une force régionale et au moment où les soldats nigérians semblent reprendre un peu de terrain au groupe islamiste, les djihadistes mènent des attaques sur plusieurs fronts, à l'intérieur et à l'extérieur du Nigeria, ce qui pourrait s'apparenter à un changement de tactique, alors que des élections sont prévues à la fin mars. Un survol de la situation avec Nicolas Pinault.
L'attaque de Boko Haram sur la ville de Gombe au début du mois en a surpris plus d'un. Les djihadistes sont entrés au cœur de la ville pour abattre des soldats et distribuer des tracts, avertissant ceux qui veulent participer au vote du 28 mars. C'était une première. Un habitant de la ville de Dadinkowa, qui avait subi une autre attaque, estime que l'incursion ne semblait pas être pour occuper un territoire, mais pour semer la peur. Je crois que leur objectif était de faire peur aux habitants de Gombe parce qu'ils sont allés dans le centre-ville et même autour de la caserne militaire. Ces dernières semaines, l'armée nigériane a repris son offensive et les troupes du Tchad, du Cameroun et du Niger voisin augmentent la pression sur les djihadistes. Les soldats nigérians assurent même avoir repris plusieurs localités, y compris Baga, sur les rives du lac Tchad, où les extrémistes avaient perpétré un massacre le mois dernier. Pour le journaliste Al-Qassim Abdulkadir, ces gains de l'armée nigériane forcent Boko Haram à changer de stratégie. Si l'offensive devient plus corsée, alors nous les verrons chercher de nouveaux fronts pour mener leur guerre. L'expert prévoit même une augmentation des attentats suicides à mesure que Boko Haram perdra du terrain dans ses fiefs dans l'extrême nord-est du pays. C'est à ce moment qu'ils vont activer les cellules dormantes pour frapper les villes, continuer la guerre, mais pas pour occuper des territoires ni rester sur la défensive. Mais vous savez, ils vont entrer dans la clandestinité, mais en gardant quelques combattants armés dans certaines zones choisies. Mais je crois que les attaques vont se poursuivre avec plus d'attentats suicides, mais aussi des attaques sur les populations urbaines. Ces derniers jours, Boko Haram a attaqué une série de villages dans l'état d'Adamawa. Ils ont brièvement occupé la ville de Hong avant d'être repoussés par les militaires et les milices locales d'autodéfense. L'imam Daouda Bello est membre de l'initiative interconfessionnelle pour la paix dans l'état d'Adamawa. Ils essaient de traverser vers le Cameroun et ailleurs, mais maintenant le Cameroun les attaque aussi et ils ne peuvent pas aller au Niger ni au Tchad. Ils essaient donc de trouver un moyen de s'échapper. Alors ils peuvent atteindre de petits villages qu'ils vont raser et continuer. Et peut-être ils pourront pénétrer nuitamment dans une ville. Ainsi, ils ne seront pas détectés et certains d'entre eux pourront s'échapper et se fondre comme des citoyens ordinaires. Maintenant, la peur des infiltrés commence à envahir les camps de déplacés internes et la suspicion se répand sur des allégations de gens qui viennent prendre refuge dans les camps alors qu'ils sont membres du groupe djihadiste.
Gros coup de pouce financier pour l'armée malienne qui bénéficiera d'un investissement de plus de 1 230 milliards de francs CFA pour la période 2015-2019. Un montant fixé par la loi d'orientation et de programmation militaire adoptée à l'unanimité au Parlement malien. De Bamako, Kassim Traoré.
C'est la Commission Défense Nationale de la Sécurité et de la Protection Civile qui a été saisie au fond pour l'étude de ce projet de loi relatif à la loi d'orientation et de programmation militaire pour les années 2015-2019. Ce projet de loi a été adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 28 janvier 2015. Général Mahamane Touré, chef d'état-major général de l'armée malienne.
Il me semble utile de rappeler la direction stratégique donnée par le chef suprême des armées visant à restructurer notre outil de défense en vue d'ériger des forces républicaines respectueuses de l'état de droit, dédiées à la sécurité et à la protection du citoyen malien et de ses biens, constituant ainsi une valeur ajoutée certaine au processus démocratique.
Cela fait quelques années que les Maliens se plaignent de la performance de leur armée nationale. La crise au nord du Mali a été une occasion pour bon nombre de Maliens de savoir la grave crise que traversent les soldats maliens. Soumaïla Traoré, communiquant sur les sujets de l'armée.
La loi de programmation militaire vient à point nommé parce qu'aujourd'hui, il est question de restituer l'armée malienne pour faire face à la réalité du terrain. Cette armée a besoin d'être équipée pour faire face à ses missions régaliennes. Aujourd'hui, on sait que le Mali est confronté au djihadisme qui occupe le nord du pays. C'est une guerre asymétrique et notre armée doit être préparée pour ça. Nous devons former des unités d'élite, des brigades spécialisées à faire face au terrorisme.
La nouvelle loi prévoit plusieurs séries de formations, des recyclages, d'équipements, de construction et de reconstruction des infrastructures militaires, mais aussi le recrutement en masse des soldats pour tous les segments de l'armée malienne et les forces de sécurité. La double crise qu'a connue le Mali en 2012 a révélé au grand jour divers problèmes au sein de l'armée malienne. C'est pourquoi le président de la Commission nationale défense, sécurité et protection civile de l'Assemblée nationale veut qu'il y ait une gestion rigoureuse des fonds qui seront mobilisés. Honorable Karim Keïta.
Elle va doter l'armée en tout ce qui est équipement, personnel, fourniture, aussi les infrastructures. Elle va servir à rehausser tout cela en partant de l'existant, mais aussi en créant de nouvelles casernes, de nouveaux camps. Mais nous serons, nous, au niveau de la commission défense, très regardants sur les dépenses.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
La journée a été particulièrement sanglante au Nigeria. Explosion dans un bus, 17 morts près de Potiskum dans le nord-est du pays. Et quelques heures plus tard, double attentat suicide à Kano, bilan au moins 10 morts.
Deux soldats nigériens sont morts dans le sud-est du pays, près de la frontière avec le Nigeria. D'après l'AFP, leur véhicule a sauté sur une mine à Bosso. On compte également 4 blessés graves.
Les militants du groupe État islamique ont enlevé aujourd'hui au moins 90 chrétiens dans des raids sur des villages assyriens du nord de la Syrie.
Et un double attentat à la bombe a fait au moins 10 morts et 30 blessés ce mardi, banlieue de Bagdad. Au moins l'une des deux explosions a été provoquée par une voiture piégée.
Considérant le dernier bilan, on parle maintenant de 22 morts et 43 blessés à Bagdad. En Ukraine, annonce du début d'un retrait des armes lourdes de la ligne de front, mais les combats continuent. À Paris, la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine ont conjointement demandé la mise en œuvre stricte de toutes les dispositions des accords de Minsk.
Et bonne nouvelle pour la Grèce, les ministres des Finances de la zone euro ont approuvé le prolongement de 4 mois du plan de sauvetage de 270 milliards de dollars. La crise immédiate est donc résolue.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré ce mardi qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la conclusion d'un accord sur le nucléaire iranien. Le Congrès américain étant selon lui le dernier rempart possible à un tel accord.
Et ici aux États-Unis, une collision entre un train et un camion a fait au moins 30 blessés en Californie.
Moins 2 centigrades sous un ciel partiellement nuageux ici à Washington, 21 à Dakar au Sénégal, mais 10 de plus, 31 degrés à Bamako au Mali.
À la mise en onde ce soir, Georges Léonard Sagnot
et Micha Dubinsky.
présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.